Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité, AAU.
Bon, je vois pas les mains levées sur l'écran, donc peut-être on peut passer la parole à Laure et à Rachel, ou à Rachel et Laure, pour le retour à chaud sur cette discussion et sur les interventions de cette deuxième table ronde.
Bien, alors l'exercice est loin d'être facile, hein, mais on va essayer de faire ça comme il faut avec Laure. Merci déjà à vous quatre. Moi, j'ai essayé de vous écouter avec ce constat qui a un peu prévalu à la constitution de la deuxième table ronde, qui est de se dire, bah, en fait, on n'a pas fait et on ne sait pas bien faire pour essayer d'appréhender cette part socioculturelle des ambiances. Et donc, je vous ai écouté en essayant de me dire, ben voilà, est-ce qu'il y a des propositions qui émergent? Est-ce qu'à travers les différents cas d'études que vous avez pu nous présenter, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se dessinent? Et puis, est-ce qu'il y a des pistes qu'on pourrait prendre comme ça à bras le corps pour avancer collectivement sur ces questions-là? Alors, je ne suis pas sûre d'être très organisée dans ce que je vais vous dire, mais je vais essayer. Il me semble que la première chose qu'on a pu entendre, c'est assez fortement une espèce de mise en garde. Et la mise en garde, elle a été faite d'abord par Virginie, puis répétée. Et je te cite, Virginie, quand tu nous dis finalement attention au guépier du concept de culture. En nous disant c'est un concept au contour flou, et là j'ai envie de me dire ça résonne un peu aussi avec le concept d'ambiance, c'est un peu ce qu'on lui reproche, qui donne naissance à des définitions protéiformes. Et moi, ce que j'entends aussi dans le discours, mais qu'on retrouve aussi chez vous quatre, hein, qui parfois nous empêche. Et alors du coup, la question qui arrive derrière, c'est bah alors comment on fait? Et j'ai l'impression que l'idée, c'est de peut-être de laisser tomber cette accroche sur une définition absolument nécessaire du concept de culture, mais d'aller voir ce qui se passe en fait dans la concrétude du terrain d'enquête. Et là, si certains diraient alors on danse, eh ben vous nous dites alors on plonge, alors on s'immerge, alors on saisit de l'intérieur. Et là, c'est quelque chose qui résonne dans ce que l'on fait, nous, dans le champ des ambiances, à une différence près qui est quand même assez importante, qui est de dire, d'accord, on plonge, on s'immerge, on saisit de l'intérieur, mais pas sur le mode exploratoire, dans l'idée que le mode exploratoire serait un mode aussi sur un temps court. Mais on saisit sur le temps long, on y retourne. On regarde aussi l'évolution des quartiers. Voilà, donc c'est une proposition d'ancrage au terrain, probablement nécessairement plus longue que ce que l'on fait nous traditionnellement dans le champ des ambiances. Et il me semble que dans vos témoignages, là, les uns et les autres, c'était quand même ça qui revenait. Avec en arrière-plan de cette proposition-là, deux autres choses qui s'articulent, me semble-t-il, qui sont, on se plonge dans ces quartiers en les contextualisant, c'est-à-dire à la fois en décrivant les qualités du quartier, les qualités d'ambiance du quartier, mais aussi en racontant, en reprenant les paroles habitantes, en reprenant les témoignages. Vous êtes quasiment 3 sur 4 à nous avoir soit lu des témoignages, soit raconté ce que vous avez... Voilà. En endossant peut-être un rôle de passeur quelque part aussi. Donc une première chose. Et puis une deuxième chose, qui est aussi une question que je nous ai adressée collectivement dans des travaux récents et qui me semble ressurgisse beaucoup aussi de vos témoignages, c'est... d'une attention à l'histoire, mais à l'histoire longue de ces quartiers, de ces habitants. Alors, à la fois une attention à l'histoire de ces quartiers, mais aussi à l'histoire, aux histoires plurielles qui s'y tissent. Hein, Rima, tu l'as dit à plusieurs reprises, Jinan, pour t'avoir entendu plusieurs fois sur ton terrain, c'est aussi des choses qui reviennent. Voilà, donc peut-être s'emparer aussi de la dimension historique des quartiers et des histoires qui s'y tissent comme un moyen aussi d'aborder cette question de la part socioculturelle des ambiances. Enfin voilà, et chose qu'on ne fait pas jusqu'à présent au niveau du laboratoire. Et puis une autre proposition que vous nous faites, toujours dans ce premier point là, c'est alors certes de passer par la description des qualités de l'ambiance, mais de passer par les affects. Alors, il y a plusieurs termes qui ont été utilisés, hein, de passer par les émotions collectives, c'est le terme que tu utilises en citant Kéré, Virginie. J'ai entendu affect ailleurs, mais les affects collectifs comme une manière de passer de l'individuel au collectif, mais avec toujours cette question de bah, c'est très bien, mais comment on fait concrètement pour attraper ça. Voilà. Donc ça, une première chose. Il me semble que il y a aussi dans ce que vous avez pu dire peut-être trois pistes de travail. Alors vous m'excuserez parce que je vais peut-être pas être très claire. Oui, trois pistes de travail qui nous permettraient peut-être d'aller un petit peu plus loin sur ces questions-là. Une première piste qui serait de travailler à la compréhension des manières d'être à la ville de publics particuliers. Vous m'excuserez pour l'expression qui n'est pas très heureuse. Je pense à les réfugiés dans le travail de Jinan, des immigrés, des personnes qui partagent le statut de minorité. Je pense à d'anciens travaux sur les personnes âgées, les personnes handicapées. Je pense à des travaux en cours, notamment chez les doctorants, sur les enfants. Et en se disant que l'entrée par ces publics particuliers ne serait pas non plus seulement un moyen de comprendre l'efficace pratique des ambiances, mais plutôt comme un moyen de mettre en exergue leur part dans des façons d'être. Alors d'être vulnérable, mal à l'aise, à sa place, en équilibre, en déséquilibre, enfin tout ça, quoi. Et qu'il y aurait peut-être des tonalités particulières de la présence qui seraient propres à ces groupes et qui nous renseigneraient justement sur le rôle des ambiances. Voilà. Et je me demandais, c'est peut-être une bêtise, hein, si ces termes de résonance, de transpiration n'intervenaient pas à ce moment-là ou pas, ou alors je vous ai peut-être très mal compris, je ne sais pas. Voilà, c'est une première piste. Une deuxième piste qui serait peut-être de travailler sur la part des ambiances dans la construction d'une identité de groupe et de quartier. Et on est alors certes ici du côté du partage des ambiances, mais peut-être sans doute au-delà aussi. C'est-à-dire que plus que le partage, c'est comment l'ambiance participe donc à la construction de l'identité même d'un groupe et comment la revendication de cette appartenance, elle mobilise des canaux sensoriels en public et dans l'intimité du groupe, produit du conflit, produit de la cohésion, etc., etc. Il me semble que vous l'avez tous dit, Charles, notamment quand tu nous décrivais ces artistes affiliés à un même mouvement qui partagent certainement certains codes. Rima, Virginie et Jinan également. Je pense aussi au travail de Kamel Boukir qui aurait pu être avec nous aujourd'hui lorsqu'il s'intéresse aux mecs de cité et à la manière dont une appartenance à un groupe qui constitue aussi une appartenance sociale, ethnique, religieuse, et ben elle transparaît dans des codes vestimentaires, dans des gestes du quotidien, dans des manières aussi de gérer collectivement, et on revient à cette question des affects, les événements du quotidien. Hein, Boukir, il nous parle de l'embrouille entre potes, de la façon dont on gère un conflit, le décès d'un proche, etc. Voilà, je me demande si ce n'est pas aussi une piste. Et puis, peut-être une dernière piste qui serait Alors, moins travailler sur le cadre spatial, parce que j'ai presque envie de dire qu'on sait plutôt faire ici, mais travailler sur les cultures professionnelles, et c'est un peu par rapport à ton intervention, Charles, avec peut-être aussi un chantier à réouvrir qui est celui je ne sais pas comment je vais le dire, mais c'est-à-dire comment dans les ambiances sont à la fois imaginées dans certains mondes professionnels, le monde de l'art chez toi, Charles, mais dans d'anciens travaux du laboratoire qui, à mon avis, pourraient être retravaillés, tout ce qui tourne autour des institutions de santé, les institutions psychiatriques, les hôpitaux, etc. Comment est-ce qu'elles sont à la fois imaginées, projetées par un monde professionnel particulier, et comment elles sont vécues à la fois par le personnel en place, je pense au personnel hospitalier dans le cadre des institutions médicales par exemple, par les familles, par les visiteurs, etc. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un chantier aussi à réouvrir là-dessus? Voilà, et je m'arrête là.
Alors, je prends la suite avec un peu d'appréhension. Je vais beaucoup répéter des choses. Enfin, je pense que je vais les dire avec mes mots. Mais finalement, il y a pas mal de porosité avec ce que tu viens de dire. Et je précise aussi que je me prête à l'exercice en complète, non-experte du sujet. Donc, je m'excuse de la naïveté peut-être de mes remarques ou de mes réactions. Réactions qui sont issues d'abord de la lecture du programme. Et puis mise à jour par les interventions entendues aujourd'hui. Alors, cette entrée par la question socioculturelle, elle m'amène à au moins trois remarques. L'une qui porte sur la question des territoires investigués, l'autre plutôt d'ordre méthodologique sur les méthodes d'enquête, et puis un dernier pan qui ouvre peut-être des pistes quelles sont les pistes ouvertes par la culturalisation de la recherche sur les ambiances. Alors première remarque sur les territoires investigués, c'est peut-être une remarque qui vient essayer aussi de faire le lien entre la table 1, la table ronde 1 et la table ronde 2, puisque le résumé de la journée pour la table ronde 2, nous dit « Considérer la dimension socio-culturelle de l'expérience sensible de l'architecture et de la ville ». Et cette formulation m'a un petit peu interpellée, puisque, en effet, on est très urbano-centré, j'ai envie de dire. Dans toutes les présentations qui ont été ramenées aujourd'hui, on a une cité ouvrière, même si elle peut être traitée comme un village dans la ville. On a des quartiers urbains ou des camps, mais urbains, le quartier de la Goutte d'Or et puis la ville comme Seine, ou des quartiers urbains. Donc, quid de cette question socio-culturelle des ambiances dans des territoires moins urbano-centrés ou moins densément urbanisés? Que dire de la dimension socio-culturelle de l'expérience sensible dans des contextes périurbains, voire dans des contextes ruraux? Par exemple, je me demandais quel est le rôle de l'événement quand il arrive dans un village qui est dépourvu de lieux culturels. Voilà, ce sont des choses dont on n'a finalement pas abordé aujourd'hui. De la même manière, ou d'une autre manière, les milieux et les paysages, pour reprendre les éléments de la première table ronde, dans lesquels on a grandi, façonnent aussi nos égo-histoires et nos sensibilités. Et donc, il me semble qu'on est nourri et emprunt d'ambiances spécifiques on pourrait questionner les ambiances de la forêt, les ambiances du bocage, les ambiances du littoral ou de la haute montagne. Deuxième entrée sur les méthodes d'enquête. Donc, comment est-ce qu'on accède à ces filtres de l'expérience, ces filtres socio-culturels de l'expérience? Et beaucoup de vos communications sont revenues sur la question. Alors, je me suis rappelé certaines recherches majoritairement au Cresson, dans lesquelles j'ai pu contribuer, qui étaient basées plutôt sur l'heuristique du dépaysement, ce qu'on pourrait appeler voilà, l'heuristique du dépaysement, basée sur ces fameuses premières impressions dont tu parlais, Jean-Paul, je crois, tout à l'heure. En reprenant un peu l'idée de Murray Schaeffer, qui nous disait que les journaux sonores de ses étudiants étaient bien plus précis quand ils ne connaissaient pas le terrain. Et la petite expérience qu'on a faite introductive à la table ronde nous mène un petit peu sur cette idée-là d'une attention décuplée, le dépaysement comme une manière d'engendrer un déploiement de l'attention. On a une oreille en alerte, on a un œil neuf sur les terrains. Et je pense que beaucoup de recherches au Cresson ont employé cette approche de déshabituation des chercheurs à la recherche de saillance ou d'incongruité dans des terrains qui étaient assez neufs pour nous, lorsque les habitants, parfois, n'y voient que banalité du quotidien. Mais une autre entrée dans les terrains, à la recherche toujours de cette part socio-culturelle des ambiances, ce serait donc d'accéder à cette dimension inatteignable par le biais du dépaysement, cette dimension d'implicite, d'ambiance partagée, d'habitude et puis de rythmique du lieu que seuls les habitués peuvent connaître. Et là, différentes méthodes d'enquête ont été avancées aujourd'hui pour, comme tu le disais, Rima, enquêter depuis l'intérieur. Et donc, il y a notamment l'entretien ou les entretiens, une ethnographie sur le long cours et notamment la méthode des itinéraires. Alors, ces méthodes, comme manière d'accéder aux filtres, aux bagages socioculturels des acteurs, on l'a aussi vu, posent la question de comment dépasser les témoignages individuels. Rima, tu parlais de redondance, et puis en clin d'œil avec la redondance intersubjective dont Pascal a pu nous parler. Et donc, je pense qu'au sein du laboratoire, on est peut-être une des pistes. On est plusieurs à travailler sur des formes qui essayent de mettre en partage ces représentations individuelles. Des formes capables de révéler des rencontres intersubjectives, de révéler à la fois des rencontres et de faire émerger des controverses. Et comme le résumé le relevait, il nous faut pouvoir aborder la part préconsciente du vécu des ambiances. Il peut être intéressant pour cela que ces formes de mise en partage ne soient pas uniquement basées sur du texte, sur des récits, sur des mots, mais proposent de vivre une expérience sensible partagée avant d'échanger. Et là, on retrouve un petit peu tous les dispositifs d'échange autour de tables longues. On a parlé ce matin, Frédéric nous a rappelé peut-être le rôle des croquis d'ambiance, du dessin donc, des échanges autour de projections de films ou de diffusion de sons, de visites in situ, autant de formes qui permettent d'introduire un registre non-verbal tout en donnant à voir ou à sentir des gestuels, des rythmes, ce fameux temps sénégalais, des couleurs, des tonalités qui pourraient participer d'une culture locale. Et sûrement que le rôle de l'art ici a toute sa place à jouer. Pour finir, peut-être sur trois horizons de cette ligne d'horizon, d'une culturalisation de la recherche sur les ambiances. À mon sens, ça nous invite, cette thématique, ça nous incite, ça nous met en garde à ne pas étudier la culture légitime, la culture dominante, mais bien les cultures, les contre-cultures, les cultures marginalisées, les cultures qui sont peu exprimées. Et du coup, il me semble que ça peut être intéressant d'investiguer des terrains qui présentent peut-être parfois aussi des chocs de culture qui se traduisent par des conflits d'ambiance. Et là, me revenait un petit peu en tête un conflit qu'on avait pu un petit peu étudier dans le cadre de l'ANR Apparaître, qui avait opposé des SDF à une union de quartier des habitants en centre-ville de Grenoble. Puisque ces deux groupes portaient des visions complètement différentes de ce que représentait l'ambiance de la rue ou une bande d'ambiance de rue. Deuxième remarque, c'est que cette question de la culturalisation et puis surtout vos interventions nous invite à penser, je crois, à repenser peut-être ou à questionner cette fameuse définition de l'ambiance comme espace-temps éprouvé en termes sensibles, que je suis la première à utiliser d'ailleurs. Mais je me suis dit là, en vous écoutant, que peut-être qu'il fallait ouvrir cet espace-temps éprouvé en termes sensibles pour voir comment l'ambiance perdure. Alors, tu parlais de résonance, Rachel. Comment ça perdure au-delà de la rénovation du quartier chez Rima, au-delà de la démolition et de la reconstruction, au-delà de l'événement peut-être. Et puis, ça c'est pour la question du temporel, de l'espace-temps éprouvé en termes sensibles, mais peut-être au-delà de l'espace singulier, puisque l'exemple de la Goutte Nord nous invite à voir que cette ambiance... Une ambiance pourrait être peut-être multilocale. C'est la première fois que je me pose cette question, enfin que je réfléchis à cette idée, hein, d'une ambiance retrouvée, enfin d'un don d'ubiquité de l'ambiance. Quoi. Donc voilà. Et puis dernière invitation. Il me semble que cette question de la culturalisation nous invite à penser peut-être à re-questionner les passages entre les cultures, les endroits comme la Goutte d'Or où on s'autorise à sortir de sa culture, à se départir de ce que l'on est vraiment, comme nous dit Malik. Toutes ces questions de passage entre les cultures nous invitent à mon sens à endosser encore une fois peut-être la position du traducteur, se reposer la question de la traduction dans l'ambiance, pour comprendre l'ambiance, et puis pour cela, peut-être qu'il faudrait poursuivre les pistes ouvertes il y a un certain temps par le GDRI Ambiance et Traduction. Voilà un petit peu les différents chantiers qui me semblent, que ça semble poser.
Donc, merci à vous deux pour cette réaction à chaud formidable et aussi aux quatre interventions.